Bonjour. So I'm not going to speak in English, but hopefully you can understand something with the subtitles and questions are welcome. Donc je ne vais pas le faire en anglais. Avant tout, je voulais remercier l'École de la Nature et du Paysage qui m'invite aussi. Donc ma présentation elle va être un peu hybride parce que je viens à la fois comme diplômée de cette école-là pour vous présenter une partie de mon travail de diplôme de paysagiste. Et depuis que je suis diplômée, donc je travaille au PNR des Pyrénées-Ardivoises et je viens aussi aujourd'hui en tant que salariée de ce PNR. Et ce qui recoupe mes deux activités et qui justifie une présentation aujourd'hui, c'est la progression des boisements spontanés en montagne, donc dans les Alpes pour ce qui est mon diplôme et dans les Pyrénées pour ce qui est mon travail actuel. Je voulais commencer par vous raconter un peu ce qui m'a amené à ces réflexions. Donc quand je suis arrivée à l'École de la Nature et du Paysage qui est à Blois, ça faisait 18 ans que j'étais en région parisienne, dans un espace très urbanisé où tout est construit pour l'homme. Et ensuite, lors de mes premières années à l'école, j'ai appris que non seulement la ville, mais aussi la campagne, elle était issue de la gestion humaine, donc de l'agriculture, de la gestion forestière, et que même les espaces qu'on dit naturels, ils sont gérés également. Jusqu'à ce qu'un jour, je me retrouve dans ce village. Là, est-ce que je vais y arriver ? Oui. Qui est dans les Alpes italiennes, au-dessus du lac de Côme, à 2 heures de marche de la première route. Et là, le dernier chevrier qui est dans ce village, qui est le dernier à maintenir une activité agricole, et en fait presque le dernier habitant, il me montre le versant d'en face, et il m'explique que partout où les feuilles sont vertes en sortie d'hiver, c'est des bouleaux, et qu'avant, c'était de l'herbe qui était soit fauchée, soit pâturée, mais que depuis l'exode rural, les arbres étaient revenus et qu'en fait, ces espaces-là, ils n'intéressaient plus personne ne portait son attention dessus. Et ça m'a tellement interpellée que quelques années plus tard, quand on m'a demandé de choisir un site pour, sur lequel travailler toute l'année pour mon diplôme de paysagiste, je suis retournée dans les Alpes, à la frontière italienne, donc tout au sud des Alpes, au sud du Mercantour, et à un endroit aussi où les forêts progressaient grandement. Donc on est au col de Tende. Et mon territoire, il est centré sur le col de Tende et de chaque côté, donc au nord, là-bas, c'est l'Italie. Et c'est un endroit qui est plein nord, donc c'est plutôt des traits, c'est une station de ski. Et au sud, au-dessus, donc quand on regarde sur la gauche, c'est la France. Et des versants qui sont recouverts plutôt de pinèdes. Et un endroit qui est connu pour la Vallée des Merveilles, qui amène beaucoup de tourisme et de passage. Et il y a aussi énormément de passages à cet endroit-là, au col de Tende, parce qu'il y a un tunnel ferroviaire, un tunnel routier, et bientôt un deuxième tunnel routier, on voit le chantier qui se prépare ici. Et en tant que paysagiste, ce passage, c'était un bon prétexte pour moi pour chercher à valoriser les ressources sur un territoire de montagne, donc l'herbe surtout en fait, et par extension la viande, le lait, et également le bois, mais uniquement sur des endroits qui ne sont pas trop pentus. Et donc ça, c'est du coup le même territoire. Et en fait, les endroits où j'ai cherché à valoriser les ressources, c'est ce qui apparaît plutôt en orange, donc c'est les alpages. Je proposais, ça je passais assez rapidement, c'est pas tellement l'objet du colloque, mais je proposais des fiches actions, d'autres façons de gérer les alpages en ayant une approche transfrontalière où le but c'était d'avoir des valorisations à la fois sur le plan productif, sur le plan biodiversité et sur le plan des paysages d'un point de vue esthétique, vraiment une approche de paysagiste typiquement. Mais voilà, quand je regardais mon territoire, je ne pouvais pas ne pas regarder tout ce qui ne pouvait pas raisonnablement être valorisable en fait. Et en l'occurrence presque tout ce qui est en vert, donc c'est les nouvelles forêts qui ont poussé les 50 dernières années. Là c'est une carte de la croissance de ces boisements là. À gauche on est en 1950 et à droite on est en 2016. Et donc voilà, je pense que c'est assez parlant. Ce que je voudrais préciser, c'est que ce n'est pas du tout une ressource aujourd'hui, comme je disais, ces forêts-là. En France, c'est des pinèdes, c'est très pentu, c'est très peu desservi, donc ce n'est pas du tout utilisé par l'ONF qui gère ces forêts-là. Et au nord, c'est des vieilles étraies ouais, qui sont vieillissantes, et par rapport à la station de ski, c'est vraiment une ressource qui est anecdotique. Et ce n'est pas non plus quelque chose qui est intéressant aujourd'hui en termes de protection de la nature. Donc on est juste à côté du parc national du Mercantour, qui a des espaces remarquables. Mais là, c'est des stades pionniers qui n'intéressent pas beaucoup les naturalistes. Et donc voilà, c'est vraiment des espaces à la marge qui sont hors de la gestion. Par contre, moi, ils m'intéressaient beaucoup parce qu'ils sont, je trouve, en plein dans le politique, parce que les habitants localement, ils ont comme référence plutôt le paysage de 1950, avec des forêts qui étaient contenues et utilisées. Et aujourd'hui, quand ils regardent les versants où il y a tous ces nouveaux boisements, pour eux, c'est un signe d'abandon. Donc ça, c'est quelque chose que je vais développer plutôt dans les Pyrénées. Mais c'est vraiment sur ce regard-là que j'ai cherché ensuite à orienter mon projet de fin d'études. Et donc, voilà, c'est des propositions qui peuvent être assez anecdotiques. En fait, je me suis beaucoup basée sur le livre de Jean-Baptiste Morisot, Les diplomates, qui part de la question du retour du loup pour proposer une nouvelle cohabitation avec le sauvage. Et en fait, je me suis dit que tous ces nouveaux boisements, c'était le signe très visible et un peu dérangeant du retour d'une certaine forme de sauvage. Donc, qui n'est pas du tout pur, parce que vraiment, on cohabite avec, mais souvent de manière inconsciente. Et l'objectif de ces quelques pistes de projet, c'était de renouer des liens avec le sauvage, donc en invitant les personnes à sortir des sentiers battus, à porter attention aux signes qu'on peut trouver en nature, à les révéler d'une façon ou d'une autre par des objets comme ce cube-là, à apprendre à nouveau à lire ce que nous dit la végétation de l'écologie dans laquelle on se balade. En fait, voilà. En France, c'était plutôt des pins. Bah, c'est pas du tout la même chose que nous raconte un pin que ce que nous raconte un être sur l'endroit où il a poussé. Et voilà, plusieurs choses comme ça. Et j'imaginais pas du tout que la population locale se mette tout d'un coup tout le monde à sortir des sentiers battus. C'est une population qui est assez vieillissante, puis qui a ses habitudes aussi. Et c'est ce qui justifiait la proposition du journal, où en fait les personnes qui se prêtent à ces activités-là écriraient dans le journal leurs expériences sauvages. Et ce journal serait disponible au plus grand monde, et c'est comme ça que j'imaginais que les regards pouvaient changer sur ces nouveaux boisements. Mon diplôme, il s'est arrêté là. Le journal que j'avais appelé le journal du sauvage, c'est resté une utopie. Mais tout de suite après, je suis partie pour un dernier stage donc dans les Pyrénées ariégeoises. Et là, j'ai fait un journal pour de vrai. Donc dans le Haut Vic de Sceaux, dans les Pyrénées, et qui parle beaucoup de la perception des habitants sur la progression des boisements. Donc on a changé de montagne, on est au plein sud de Toulouse, à côté d'Andorre. Le parc naturel régional des Pyrénées-Ariégeoises, c'est 130 communes avec seulement 50 000 habitants en tout, donc c'est la population de Blois. Et il y a une vallée en particulier sur laquelle je me suis intéressée, qui est la vallée du Vic de Sceaux. 1000 habitants, tout et pour tout, surtout dans deux villages de fond de vallée et un peu dans tout ce qui est en jaune, là, c'est des villages de versants. C'est une vallée qui a une histoire assez particulière. À la fin du 19e siècle, ils étaient en complète surexploitation pastorale et il n'y avait plus un arbre, il y avait un gros problème d'érosion. Et ensuite, au 20e siècle, il y a eu un tournant sur la production d'aluminium. Donc en fait, le monde paysan est devenu un monde ouvrier et vraiment s'est tourné vers l'industrie grâce à l'énergie hydroélectrique qui avait été développée des barrages. Et aujourd'hui, il n'y a plus du tout cette industrie-là. La dernière usine, elle a fermé. Et entre-temps, du coup, les savoirs agro-pastoraux, ils sont perdus. Donc il n'y a presque plus d'agriculture, sauf en estive, de manière saisonnière. Et au niveau des paysages, ça donne ça. Donc là, on a un village de versants à gauche. Ah ouais. En bas en 1918, en haut aujourd'hui. Voilà, c'est assez parlant. Et au point qu'il y a quelques années, les habitants et surtout les communes en fait, ont fait appel au PNR pour faire des ouvertures paysagères, donc pour faire des coupes autour des villages, c'est ce que vous avez sur la droite. Donc dans des espaces que j'appelle vraiment des espaces domestiques, parce qu'avant ils étaient soit fauchés, voire cultivés, enfin, vraiment utilisés pour l'homme. Et depuis 5, 10, 20 ans, les arbres étaient revenus dans ces espaces-là. Et donc la proposition du parc voilà, a été de faire des coupes autour des villages, en général c'est pas plus d'un hectare, et pour retrouver une visibilité, ça, c'était la première justification, donc c'est le dessin que vous avez en haut, vraiment à la demande des habitants, on voit plus rien, on voit plus le village d'en face, on se sent enfermé. Et les deux autres justifications, c'est aider une réinstallation agricole, parce qu'aujourd'hui en Ariège, il y a beaucoup de personnes qui cherchent des terrains pour s'installer. Mais le foncier est bloqué, comme souvent en montagne, très morcelé, on ne sait pas où sont les propriétaires, mais c'était une bonne occasion de travailler sur le foncier pour ramener de l'agriculture dans ces villages. Et la troisième motivation, qui est celle sur laquelle je travaille moi plus particulièrement en ce moment, c'est qu'est-ce que c'est la trame des milieux ouverts aujourd'hui dans une vallée qui est devenue complètement boisée. Et donc pour la restauration de la trame des milieux ouverts, ça pouvait être intéressant de faire ces ouvertures-là. Et voilà, quand je suis arrivée en stage, il y avait déjà eu plusieurs opérations de ce type-là. Et moi, on m'a demandé d'aller recueillir l'avis des habitants sur ces ouvertures paysagères. Et donc, je les ai mis en forme dans ce journal-là. Et notamment, j'ai mis en dessin donc, le paysage que me racontaient les habitants, de leur paysage de référence, comment c'était avant, dans leurs souvenirs. Donc, c'est ce que vous avez à gauche. Et voilà, les phrases qui ressortent, c'est « c'était fauché, on voyait tout, c'était déboisé, il n'y avait pas un arbre ». Et quand on leur demande de décrire le paysage aujourd'hui, ce qui ressort, c'est plutôt ce qui est à droite, avec une sensation d'envahissement, il y a trop d'arbres, on ne voit plus rien, on est étouffé. Et ce n'est pas tellement une peur vraiment individualisée, on n'a pas trop parlé de l'ours par exemple, ou de faune sauvage, c'est une peur qui est diffuse une sensation d'étouffement. Et voilà, ce que je vous dis, c'est que cette vision-là, elle est à nuancer en fonction des générations. Parce que quand les enfants me parlaient, par exemple, eux, ils ont une vision très positive des arbres, peut-être parce qu'ils n'ont pas ce paysage de référence d'avant où tout était travaillé. Et aussi, il y a une différence à faire entre ceux qui sont en résidence secondaire, qui sont beaucoup plus cléments envers la forêt, et ceux qui sont en résidence principale, qui vivent au quotidien cette oppression, c'est le mot qu'ils utilisent. Et aussi avec les personnes urbaines, voilà, qui en fait parfois viennent justement parce qu'il y a ce retour du sauvage, et donc n'ont pas cette vision-là de la forêt. Et donc ça, je vais passer assez rapidement, mais ces projets-là, ça suscite beaucoup de tensions tout au long du projet, depuis l'accord des propriétaires pour couper leurs arbres, jusqu'à comment se déroule le chantier, et surtout l'entretien derrière, est-ce que l'éleveur fait bien son travail, est-ce que ça va pas devenir un rancier à nouveau, il y a beaucoup de peurs qui s'expriment. Mais c'est justement moi ce que je trouve intéressant dans ces projets-là, c'est que ça oblige la société locale de ces petits villages où il y a rarement plus de 40 habitants à se remettre en marche, à discuter, à aller vers une vision collective, et aussi à se reposer la question de la place de l'agriculture en montagne, et vraiment à être obligé d'accueillir l'agriculture. C'est pas juste un éleveur qui arrive, c'est on lui fait de la place sur nos terrains. Souvent ils arrivent, ils ont des enfants, donc tout d'un coup ça ramène de la vie dans les villages. Et voilà, si ces projets sont pas du tout impressionnants du point de vue du passant ou en photo aérienne, c'est des toutes petites choses, mais du point de vue de la perception des habitants, ça a un réel impact. Et aussi, ce qui me semble intéressant, voilà, c'est cette question d'échelle. Donc on intervient, il y a des endroits où on intervient, mais ça pose la question de tout le reste, là où on n'intervient pas, donc qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on doit en faire quelque chose? Et comment on le voit? Voilà. Et le réflexe que j'ai encore en tant que paysagiste, c'est toujours celui de valoriser, mais s'il y a tous ces boisements qu'on poussait, il faut bien en faire quelque chose. Et un des réflexes qu'on a dans le contexte de la transition énergétique, c'est le bois énergie, l'utiliser comme énergie, ces boisements-là. Et c'est aussi un réflexe de nos politiques publiques. Je vais aussi aller rapidement, mais donc, en fait, j'ai travaillé pour un chercheur à vulgariser sa thèse, qui montre que ce n'est pas du tout une solution en termes climatiques d'utiliser le bois comme énergie. Et si je vous parle de ça, c'est parce que ça me pose la question de... On a ce réflexe de vouloir valoriser, et nous, en tant que praticiens, c'est de manière un peu intuitive, et souvent, on ne s'appuie pas sur des bases scientifiques. Donc je profite d'être dans un colloque scientifique pour dire que les ponts, il me semble essentiel à faire entre vos travaux et les gestionnaires qui sont sur le terrain, que le dessin, ça peut être une médiation assez efficace. Donc je passe. Mais voilà, enfin, la conclusion de ces recherches, c'est plutôt de dire que la forêt elle est plus efficace d'un point de vue climatique en tant que puits de carbone plutôt qu'en tant qu'énergie. Sauf que, enfin, évidemment, on l'a vu tout le long des interventions aujourd'hui et hier, la forêt, elle est plurifonctionnelle, il y a plein de choses qui se passent autour, on ne peut pas juste la considérer comme un puits de carbone. Et toujours dans le lien avec les travaux des scientifiques en termes de gestion plus intelligente des forêts, il y a beaucoup de choses à faire. Et là, pour le coup, c'est un travail qui a été fait au sein du parc naturel régional de Martelloscope. C'est quelque chose qui est assez répandu maintenant. Il y a une parcelle forestière où tous les arbres sont numérotés et on invite les forestiers ou les propriétaires forestiers à noter les arbres qu'ils auraient coupés. Donc c'est une coupe fictive en fait. Et ensuite, on analyse avec des données scientifiques, écologiques et de production leur coupe, qu'est-ce que ça fait en termes de production et en termes écologiques. Donc pour conclure, moi ce qui me semble intéressant avec la progression de ces boisements spontanés, c'est qu'ils nous montrent que le paysage il est témoin de l'évolution de nos sociétés, mais qu'il peut aussi être objet, prétexte à amorcer des changements dans la non-gestion ou dans la gestion. Et ces changements, je pense qu'ils sont d'autant plus intelligents s'ils prennent en compte et se basent sur des travaux scientifiques. Et donc, voilà, c'est une conclusion, un appel à collaborer, sûrement. Merci.
Merci beaucoup.